Vous êtes sur Radio Accor dans l'émission Rencontre. Cette émission sur les chemins de Compostelle est réalisée pour le compte de Radio Accor par l'association Les Amis de Saint-Jacques en Vienne.
Tous les matins nous prenons le chemin, tous les matins nous allons plus loin, jour après jour la route nous appelle, c'est la voie de Compostelle.
Aujourd'hui, Jean-Louis, je reçois Huguette et Michel. Ils vont nous parler du chemin qu'ils ont parcouru du Puy-en-Velay jusqu'à Compostelle. Bonjour Huguette.
Bonjour.
Bonjour Michel.
Bonjour.
Alors pour commencer, pouvez-vous me dire la genèse de votre décision ? Pourquoi Compostelle ?
Compostelle, ça vient d'un témoignage qu'un ami nous a fait à un moment de sa vie, c'est-à-dire généralement à un départ en retraite. Et ensuite, il nous a témoigné par son rapport tout son vécu sur le chemin. À partir de ce moment-là, nous avons décidé avec Huguette de s'engager sur ce chemin.
Et vous, Huguette, qu'est-ce que vous diriez ?
Alors moi, Saint-Jacques, c'est vrai que j'y pensais beaucoup plus avant la retraite de Michel. Je pensais marcher, mais je ne savais pas si j'allais partir seule ou accompagnée. Et quand Michel m'a proposé, au moment de sa retraite, de partir sur le chemin, j'étais vraiment très très heureuse. Et là, nous avons commencé à nous documenter. Donc au départ, le chemin c'était les livres, les cartes, et puis cet ami qui aussi, au moment de sa retraite, avait fait le chemin.
D'accord. Et par exemple, au niveau des livres, est-ce qu'il y a un livre qui vous a marqué particulièrement ? Non,
si vous n'avez pas. Non, pas vraiment. C'était surtout me documenter.
D'accord, hein, c'est ça. Mmh. Et donc c'est bien ce témoignage de votre ami qui a été l'élément, le déclenchant de votre rêve, quelque part.
De mon côté que nous avons accueilli un pèlerin à la sortie de la messe à Saint-Hilaire, qui est venu donc déjeuner à la maison et qui nous a lui aussi bien motivés pour s'engager sur le chemin.
Mmh. D'accord. Donc, voilà, vous avez envie de partir.
C'était un rêve.
Partir, voilà, aller jusqu'à là-bas. Alors, pourquoi en couple, au fait ?
Eh bien, nous appartenons à une association qui s'appelle Vivre et Aimer et qui permet aux couples de fortifier leurs relations. Et à partir de ce moment-là, il nous est très difficile, au jour d'aujourd'hui, d'envisager un quelconque projet sans qu'on soit ensemble dans ce projet.
Et en plus, au moment de la retraite, je crois que c'était aussi un nouveau départ. Un nouveau départ, je crois que nous avons voulu le marquer vraiment ensemble. C'était une nouvelle vie qu'il fallait aborder. Donc, nous sommes partis aussitôt. Parce que nous avons fait le chemin en plusieurs fois. Donc une première fois, nous avons fait donc Puy-en-Velay, Conques. C'était un chemin de découverte.
Alors, quand vous avez fait, puisqu'on est déjà dans le chemin, vous êtes parti du Puy-en-Velay jusqu'à Conques. Michel, vous étiez déjà en retraite ?
Non, j'étais pas en retraite, j'étais encore en activité. Il me restait quelques mois à terminer. Et nous avons décidé au mois d'avril, donc 2008, de faire un essai. Et on s'est dit, nous allons voir ce que nous pouvons faire, si nous pouvons tenir, si nous pouvons...
Moi, je voulais savoir porter. Si le mental, si le physique pouvait suivre.
D'accord.
Voilà. Donc, nous sommes partis 10 jours à peu près.
Puis 10 jours.
Et nous avons fait, puis on veut les Conques.
Bien, et voilà un bon départ, c'est-à-dire qu'il y avait le rêve. Est-ce que la réalité de ce rêve, est-ce que c'est possible de le rendre réel ? C'est un petit peu votre projet, cette première étape.
Ça a été vraiment très, très positif, ça a été une découverte. On l'appelle comme ça, c'est notre chemin de découverte, cette première partie.
Oui, voilà. Et donc, cette première partie, c'était donc en avril.
Oui, 2008.
En avril 2008.
Et j'allais être en retraite donc, au début septembre, d'accord. Donc à la rentrée scolaire. Et eh bien, nous avons décidé qu'on partirait le jour de la rentrée scolaire. On repartirait de Conques avec un objectif, c'était de rejoindre au moins Saint-Jean-Pied-de-Port.
Donc au fond, la deuxième série de marches, la deuxième étape, la deuxième grande étape, c'était le départ à nouveau, donc de Conques cette fois-ci. Mmh. Voilà. Oui. Et donc c'était pour aller... dans votre projet, à ce moment, dans votre projet,
c'était pour aller jusqu'à
Saint-Jean-Pied-de-Port. Ah d'accord. Oui. Donc c'était Conques Saint-Jean-Pied-de-Port.
Tout à oui, fait. Parce que je crois que quand on part sur le chemin, c'est un chemin d'humilité. Donc on part, c'est vrai, mais on ne sait pas si on va arriver. Hein. Donc nous pensions, nous avons mis l'échéance à Saint-Jean-Pied-de-Port. Mais la deuxième partie, Conques. Bon, Saint-Jean-Pied-de-Port, ça ne s'est pas réalisé comme nous l'avions prévu, puisque le deuxième jour, nous avons eu un petit accident.
Un accident de pied.
De pied, petit orteil. Et Michel, lui, c'est son gros orteil qui s'est cogné dans une petite marche.
Ah d'accord, donc c'était les orteils étaient,
voilà,
étaient mal.
Et nous avons, donc moi j'appelle ce chemin, c'est un chemin de souffrance, parce que j'ai eu très très mal à cet orteil. Et qui m'a fait beaucoup souffrir pendant tout le parcours.
Pendant 12 jours.
Si bien que nous avons raccourci notre parcours et nous n'avons pas pu aller jusqu'à Saint-Jean-Pied-de-Port.
D'accord, vous êtes allé jusqu'où alors ?
Donc, Moissac.
Donc vous avez fait 12 jours alors, de
Conques,
souffrance.
Moissac,
hein.
Ah oui.
Donc c'était le petit orteil pour, voilà. pour vous et c'était le gros orteil.
Pour moi, le gros orteil ne me gênait pas particulièrement, mais je crois que Huguette a énormément souffert. Avec ce petit orteil qui entre guillemets, a éclaté.
Voilà, ah. Le troisième jour, il a éclaté. J'avais donc un pansement que, quand on est arrivé chez Marie, Marie la Belge, que j'ai enlevé ce pansement, et la peau, l'ongle est venu. Et j'ai continué à marcher comme ça, parce que je ne voulais pas m'arrêter. Hein. Donc, alors voilà, ça, c'était une force aussi sur le chemin. Je n'ai jamais compris... comment j'ai pu marcher comme ça et vraiment...
Parce que chaque pas a été douloureux ou...
Il fallait que je place bien mon pied d'abord dans ma chaussure le matin ouais. Et ne surtout pas enlever mes chaussures de la journée. Mmh. Et quand je... Ce qui était difficile, c'était les ascensions. Parce qu'il fallait bien que je place bien mon pied. Mais Saint-Jacques me tirait, hein, donc il n'y avait pas de problème.
Enfin, il y a eu un problème puisque vous êtes arrêté voilà. À Moissac, voilà. Fin voilà. Du deuxième acte.
Et hein. Même quand on est arrivé à Cahors, on ne savait pas du tout. Nous oui, avons si. Fait une halte hein, toute la journée. Nous avons passé une journée à Cahors et je ne savais pas du tout si j'allais repartir. Mais d'accord. Nous sommes arrêtés dans un couvent, le couvent
De
Vélat. Et là, il y avait des hospitaliers qui nous ont reçus. Et lorsque nous sommes repartis le lendemain matin, je revois ce monsieur me disant « Mais... il faut continuer, hein, il faut continuer. Et je crois que vraiment, là, il m'a donné une force.
Alors, vous êtes arrêté à Moissac. Et alors là, comment vous avez repris, puisque finalement, vous êtes allé au bout plus tard. Alors, comment ça s'est passé ?
Alors, nous avons repris, nous sommes repartis de Moissac, donc en mars.
Et alors, cette période entre le retour de Moissac... Et le nouveau départ, est-ce que ça a été difficile ? Est-ce que vous avez pris votre décision très rapidement ? Comment ça s'est passé ?
Ah, il était tout à fait clair et entendu que nous irions jusqu'à Saint-Jacques.
Ah d'accord.
Bon, donc ça c'était l'objectif voilà. Avoué.
D'accord.
Et je crois que ce projet, on l'a bien mûri. On a eu l'hiver pour se refaire les doigts de pied, on va dire, mmh. Entre guillemets, mmh. Les orteils. Mmh. Et puis, fin mars, le 31 mars, il fallait qu'on reparte absolument sur Moissac. Et là, on est parti de Moissac. Mmh.
Donc alors
c'est vrai que c'était préparé, là. Hein, parce que nous avions fait des bêtises hein, sur les deux autres fois où nous avons
quelle
marché.
Quelles bêtises vous avez fait ? C'est intéressant d'entendre.
Eh bien, les bêtises, c'est-à-dire que, étant donné que j'avais mal à ce petit doigt de pied, j'ai desserré mes chaussures. Donc, je marchais, les chaussures pas du tout serrées. Donc, ça, c'est une erreur.
Ça a généré bien des ampoules.
Et d'accord. Ensuite, j'ai des ampoules qui sont apparues. Donc, plus des petits doigts de pied, j'avais des ampoules au talon, un petit peu partout. Donc, il fallait aussi gérer les ampoules, en plus.
Voilà. Alors, donc vous êtes parti de Moissac. Alors, c'était le
31 mars.
31 mars. 2009.
2009.
C'est tout, oui. Tout neuf encore.
Mmh. Oui.
Et donc là.
Toujours en couple.
Racontez-moi votre marche d'abord jusqu'à Saint-Jean-Pied-de-Port. Comment ça s'est passé là?
Extraordinaire. Jusqu'à Saint-Jean-Pied-de-Port, plus d'ampoule.
Pas du tout, aucune ampoule.
Pas de tendinite.
Non.
Pas de courbature.
Voilà.
Tout se passait à merveille. On marchait tranquille, jour après jour.
On n'était pas pressé. Alors, nous faisions des étapes. On n'a jamais dépassé 20 kilomètres, à peu près.
La première, on a fait 28.
Oui, c'est vrai, la première, 28.
Mais comme
là, c'était après moi ça, qu'on longeait le canal. C'était très plat, donc il n'y avait pas de problème.
On s'est laissé porter par le...
Voilà, c'était très beau. Très, très beau. Moi, je me souviens.
Et ce chemin, alors, parlons un petit peu plus de chemin, puisque là, vous occupiez moins de vos orteils. De Moissac à Saint-Jean-Pied-de-Port. Comment ça s'est... Vous me dites comment ça s'est déroulé, mais au niveau du rythme, au niveau de ce que vous avez vu, comment ça s'est passé?
Alors, au niveau du rythme, donc, on n'a jamais dépassé...
Oui, on a essayé de se tenir dans les 20-22 kilomètres. Voilà. Suivant notre état de fatigue. Je me souviens qu'à un moment, moi, j'ai eu un coup de faiblesse, j'avoue, et on s'est limité à 10 ou 12 kilomètres une journée. Il a fallu que je retrouve de l'énergie en me reposant l'après-midi.
Voilà. Sur le chemin, on apprend à gérer son corps aussi, hein. Parce que c'est lui qui nous permet d'avancer, hein. Donc, on prend conscience que... il faut absolument faire attention à son corps. Oui. Donc, il faut beaucoup boire pour éviter les tendinites. Hein. Et il faut aussi savoir s'arrêter quand on est un peu fatigué. Mais c'est très facile de s'arrêter, parce que quand on prend des photos, automatiquement, on s'arrête sur le chemin.
D'accord. Oui, très bien. Et alors, donc là, vous êtes passé par Eauze, Lectoure, Eauze. Donc, vous avez rejoint Stabat et vous êtes donc arrivé à Saint-Jean-Pied-de-Port.
Oui.
Et là, comment vous avez fait pour traverser les Pyrénées?
Eh bien, faut avouer qu'à Saint-Jean-le-Vieux, nous avons un ami qui nous a accueillis pour une journée. On est resté avec lui, une personne d'un certain âge, qui était très ravie de nous accueillir. Et ensuite...
Donc, nous avons fait un break, là.
Un petit break,
on a fait une journée de repos.
Une journée.
Pour aller plus loin.
Et ensuite, nous avons rejoint de Saint-Jean-le-Vieux, on a rejoint Saint-Jean-Pied-de-Port. On est allé au bureau des pèlerins. Et ils nous ont conseillé de ne pas prendre le chemin de la montagne qui était enneigé.
Ah oui, c'était tôt et donc, c'était enneigé.
Et il y avait déjà eu des accidents. Donc
nous avons pris la route.
On a pris la route, d'accord.
Alors, nous avons été prudents et nous avons pris la route. Pour traverser les...
Et arriver à Ibagneta.
Il faudra qu'un jour vous repassiez par le, par le col.
Le col.
Et par beau temps, si c'est possible. Parlez-moi un peu du chemin ensuite que vous avez fait, donc de Roncesvalles jusqu'à Compostelle.
Oui.
Parce que là, vous étiez à Roncevaux à quelle date?
Vers le 17 ou 18 avril.
Valcarlo, c'était le 16.
Valcarlo, le 16. Donc le lendemain, on était, donc le 17, on était donc à Roncevaux. Nous avons visité un peu Roncevaux. Personnellement, j'étais un tout petit peu déçu. Je m'attendais à un village un peu plus médiéval. Et puis, sur les conseils de certains, on ne s'est pas arrêté à Roncevaux pour y passer la nuit. On a continué jusqu'à Burguété. d'État, 4 ou 5 kilomètres plus loin.
Et dans toutes ces étapes, on ne va pas avoir le temps de toutes les voir, mais quels sont les points qui vous ont le plus marqué là, sur ce chemin, puisque y a Pamplune, il y a Puente la Reina, il y a Burgos, il y a León, il y a Astorga. Voilà, c'est des noms qui font rêver. Quels sont les lieux qui vous ont le plus marqué?
Moi, Burgos, j'ai beaucoup aimé visiter la cathédrale, hein, bien sûr. On a passé beaucoup de temps. Pamplume aussi, hein, c'était cette église très sombre m'avait beaucoup aussi impressionnée.
Mais Pamplune, on s'est arrêté quelques 2-3 kilomètres avant Pamplune pour le logement. À Burlada. Et on a traversé Pamplune le lendemain tranquillement, quoi. C'était assez cool pour traverser.
On a même assisté à un mariage.
Ah, à la sortie de la cathédrale.
Oui.
Mais c'était, je crois, à Burgos.
Non. Enfin.
Si, c'était à Burgos dans le contrebas.
D'accord.
Si, je me souviens bien de.
Ah oui,
de ce mariage.
Oui, c'est vrai.
Là, évidemment, on a essayé de visiter un peu Burgos puisqu'on avait un peu de temps l'après-midi. Mmh. Ensuite, de Burgos, eh bien, on a repris donc ce chemin pour aller sur. L'objectif, c'était León.
Oui.
Parce que après, entre les deux, il y a quand même pas mal de villages à traverser. Ce qui m'a particulièrement impressionné. En Espagne, ce sont ces petits villages qui sont quasi abandonnés, où on rencontre pratiquement que des personnes qui sont déjà assez âgées. Il n'y a pratiquement pas de vie dans ces villages. On rencontre des villages qui sont quasiment les trois quarts en ruine et qui sont laissés là pour compte de toute vie.
Et toi, Huguette, alors, est-ce qu'il y a d'autres points qui t'ont marqué, soit dans les paysages, soit dans les monuments?
Alors, moi, c'est vrai que sur le chemin, je suis très, très attirée par ce contact avec la nature et surtout les couleurs. Alors, il y a des lieux magiques que l'on traverse. D'abord, ces paysages immenses, sans limite. Et à l'époque où nous l'avons fait, c'était très très coloré. Je revois ces champs de bruyère violet avec le jaune à côté, les petits arbustes blancs, le chemin que l'on dévalait là, c'était vraiment magnifique. Magnifique. Mais bon, il y aurait beaucoup à dire.
Hein. Oui. Vous êtes sur Radio Accord dans l'émission Rencontre. Aujourd'hui, Jean-Louis, je reçois Huguette et Michel qui parlent de leur chemin en couple du Puy-en-Velay à Compostelle. Au point où nous en sommes, pourriez-vous me raconter un moment difficile, un moment fort?
Le moment difficile, ça a été lorsque j'avais très mal aux pieds. D'accord. J'en ai déjà assez parlé tout à l'heure.
Et donc la décision, et au fond, le moment difficile, c'était de décider de s'arrêter.
Oui, ça a été difficile de s'arrêter. Oui. Mais alors, nous avons eu des amis qui sont venus nous chercher en voiture. Hein, et ça a été vraiment un moment très fort, hein, où ils nous ont entourés, ils nous ont ramenés à Poitiers. Voilà.
En tant que moment difficile dans le couple, on a eu quelques tensions, parfois dues simplement à une histoire de prise de photos, parce que Huguette est très photo et elle s'arrêtait assez fréquemment, donc ça avait pour moi une rupture dans le rythme pour marcher. Mais autrement, c'est qu'une petite tension qui ne nous a pas trop perturbés, je dirais.
Alors là, vous devancez un petit peu mes questions, parce que j'avais une question à vous poser, c'était de savoir, puisque vous avez fait ça en couple, comment ça s'est vécu pour vous. Donc vous me dites, y a une petite difficulté, c'est qu'il faut trouver ne serait-ce que quelqu'un qui veut s'apprendre. Huguette veut s'arrêter de prendre une photo, puis moi je voudrais marcher. Donc là, ça a été une difficulté.
C'est vrai que on retrouve exactement ce que l'on vit dans la vie courante, c'est-à-dire que la différence, Hein. Donc moi, j'avais envie de prendre des photos, Michel, pas trop, parce que c'est vrai, je coupais son rythme. Alors bon, je faisais attention quelquefois à pas prendre trop de photos.
Oui, parce que en couple, si vous voulez, on avait toujours l'œil l'un sur l'autre. Si c'était moi qui était devant, de temps en temps, je me retournais pour savoir où Huguette était. Et l'inverse, se produisait aussi.
Est-ce que dans le rythme de la journée, est-ce que vous avez trouvé le moyen de fonctionner pour partir soit très tôt, soit plus tard? Comment ça s'est passé pour vous là? Est-ce qu'il y a eu nécessité d'un compromis ou est-ce que vous avez trouvé assez facilement
Pas de compromis, je crois qu'on était d'accord pour prendre le temps, puisqu'on s'était dit, on a le temps de faire le chemin, on n'est pas pressé, on a du temps devant nous, et certainement ce que nous procure aussi le fait d'être en retraite. On pouvait partir à l'heure que l'on voulait le matin, tranquille.
Et moi aussi, mon objectif, lorsque nous sommes partis de Moissac, mon objectif, c'était vraiment d'aller jusqu'à Saint-Jacques.
D'arriver.
Donc, je voulais aller lentement pour pouvoir aller jusqu'au bout. Donc, on était d'accord là-dessus. Bon, on partait le matin après avoir pris un bon petit déjeuner, parce que ça, c'était nécessaire pour nous. C'est très important. Et nous avons toujours marché, soit ensemble, mais autrement, Michel devant, moi. Ça dépendait du chemin.
Donc, au niveau du rythme de la marche, par exemple, il n'y avait pas de décalage significatif entre vous.
On arrivait à s'accorder tout à fait.
C'est ça. C'est-à-dire que de temps en temps, l'un était devant, l'autre...
Voilà. Dans la Mélisetta, par contre, je me souviens de cette journée où tu as marché devant, tout seul. Et moi, j'ai marché toute la journée, presque toute seule. Mais j'étais ravie.
C'était un moment important d'être... la Mélisetta, on nous l'avait décrite comme un passage désertique, impossible à traverser sans avoir des nausées à la limite, alors que là, moi, j'ai trouvé cet espace extraordinaire de solitude, de tranquillité, et c'était un moment très particulier pour intégrer, pour être intérieurement avec soi-même et se parler, peut-être faire une petite référence à Dieu, chercher quelques prières pour aider à avancer.
Alors, c'est vrai que sur le chemin, on prie beaucoup parce qu'on est face à soi-même au fur et à mesure que l'on avance. Hein. Alors, surtout que lorsqu'on fait une grande distance. Là, nous sommes partis de Moissac, nous avons marché jusqu'à Santiago pendant 57 jours. Nous avons fait 1160 km en une fois. Donc, c'est vrai que sur ce chemin, on se sent, au fur et à mesure qu'on avance, on est face à soi-même. Hein. Et on croit que... Enfin, moi, je partais sur le chemin avec cette idée de dire « je vais faire le vide ». Eh bien non, sur le chemin, on ne fait pas le vide. C'est autre chose que l'on vit. On pense au contraire à tous les gens qu'on aime. Enfin, personnellement, c'était ça. À tous les gens que j'ai laissés. Et je crois que tous les jours, j'avais une pensée pour un groupe, une personne. Enfin, voilà.
C'est-à-dire qu'on ne fait pas le vide. Je crois qu'au contraire, on fait le plein.
Voilà, mais...
Et je crois que ce que vous avez dit, Michel, là, sur la puissance de certains paysages me paraît très important. Et ça, on le découvre, effectivement, quand on est... Il faut une certaine solitude pour l'être. Mais donc, vous avez réussi à trouver le rythme et à marcher ensemble. On a quelques minutes, enfin une minute encore pour parler des échanges entre vous. Est-ce que il y a des choses... est-ce que ça vous a permis, vous, le couple, de vivre un peu plus profondément votre vie de couple?
Comme je disais au départ, dans la mesure où on est exercé à fortifier notre relation dans le mouvement Vivre et Aimer, je crois qu'au quotidien, notre relation se met en route toute seule, tranquillement, sous forme de dialogue. Bon, je crois que là, de ce côté-là, le chemin a fortifié ce qu'on fait depuis quelques années. Et nous a vraiment enrichi de ce côté-là aussi.
Et si c'était à refaire, vous referiez ce chemin ensemble?
C'est un projet. Nous allons repartir là, normalement au mois d'avril.
Ah, vous repartez
Nous repartons d'Irun.
Ou peut-être un peu plus tôt, comme on l'a un petit peu proposé, enfin, ou suggéré, avant Irun, et faire le chemin du Nord.
Voilà. Ah, donc votre projet, c'est de faire le chemin du Nord.
Ah oui, absolument. Mmh. Et que physiquement, on peut le faire encore. Donc, c'est un chemin qu'il faut qu'on fasse.
Et puis, ça fera un an à peu près.
Et puis, retrouver Saint-Jacques, ça doit être quelque chose d'extraordinaire.
Et retrouver aussi ce chemin de silence. Hein. Parce que je crois qu'on lâche beaucoup de choses sur le chemin. On va à l'essentiel. Et je crois que j'ai envie de retrouver ça aussi.
Alors, vous m'avez dit précédemment qu'à l'arrivée à Compostelle, parce qu'on n'en a pas parlé, que des amis que vous aviez rencontrés vous avaient accueillis. Alors, est-ce que vous pourriez nous dire là, rapidement, puisqu'il ne reste que quelques secondes, ce qu'il en est et ce qu'on vous a dit.
Ce sont des couples qui, justement, 8 couples qui marchaient, ce sont des Nantais, et on les a retrouvés régulièrement sur le chemin. Oui. Et donc, comme nous, notre objectif, c'était d'arriver à Compostelle le jour de nos 35 ans de mariage. Donc, ces gens savaient hein, que nous fêtions nos 35 ans de mariage.
Et vous donc, êtes arrivé de fait le jour de vos 35 ans de
mariage. Le lendemain.
Le lendemain.
Le lendemain. Il faisait très beau. Tandis que la veille, il pleuvait beaucoup. Donc, d'accord. C'était très bien. Et ces gens, à la sortie de la messe, nous ont demandé de sortir, de venir sur la place. Et devant cette basilique magnifique, ils se sont mis en arc de cercle et ils nous ont chanté ce chant que je vais simplement lire. C'est à pique-niquer qu'ils nous ont croisés, Michel et Huguette. Ils viennent de Poitiers, car le Camino, c'est un beau cadeau. Pour leurs 35 ans, ils sont rayonnants.
Merci Huguette, merci Michel de votre témoignage.
Tous les matins, nous prenons le chemin. Tous les matins, nous allons plus loin. Jour après jour, la route nous appelle.